Bonjour mes frères et mes sœurs. Connaissez-vous les pièges de Satan? Ils sont nombreux, car Satan voudrait nous détruire, alors que Dieu, notre Père, le Christ, voudrait nous voir être sauvés. La dernière fois, lorsque j'ai fait un sermon sur les pièges de Satan, j'avais toutes les intentions du monde d'en terminer au moins dans citer trois. Malheureusement, je n'ai pu qu'en citer qu'un seul. Aujourd'hui, je vais donc continuer ce sermon que j'ai commencé et en même temps vous expliquer quels sont les trois pièges. Bien que j'ai pu au moins couvrir un seul piège, je voudrais quand même faire une petite récapitulation et vous montrer ce que j'ai dit. Voyez-vous, Dieu veut que nous soyons sauvés. Satan voudrait tout faire pour nous voir détruire. Dieu a des commandements qui nous aident à vivre. Satan a des tentations, des pièges, si vous voulez, qui nous conduisent vers la mort. Nous vivons dans un monde où Satan, par la permission divine, a encore de la liberté de jouir, de nous tenter et de nous détruire s'il le pouvait. Je répète, Dieu nous a appelés pour arriver au but. Satan, il a reçu la permission de nous détruire. Nous avons, comme je vous ai dit la dernière fois, je ferai une petite récapitulation, trois ennemis mortels en ce bon monde. D'abord, nous avons Satan le diable, dont je vous parle. Et ensuite, nous avons ce que nous appelons le monde autour de nous, qui est sous la domination de Satan, toujours par la permission divine. Et ensuite, nous avons nous-mêmes, notre nature humaine, notre nature charnelle. Donc, entre ces trois ennemis, ou bien je dirais sous ces trois ennemis, nous nous conduisons par l'aide divine, car Dieu est toujours plus fort que n'importe qui, n'importe quel ennemi. Et si nous faisons notre part, Dieu fera toujours la sienne. Donc, je commence par Satan le diable, qui a détruit déjà le premier couple et qui veut nous détruire, je répète. Et ceci est déjà montré, décrit dans la Genèse. Dans l'Apocalypse, Jean nous décrit comment Satan le diable agit en ce bon monde. Laissez-moi citer juste quelques-uns des versets que j'ai cités la dernière fois, afin que vous puissiez me suivre dans la suite de ce sermon. Apocalypse 12, verset 9, nous apprenons que Satan le diable, l'ancien serpent, comme Jean dit, a été sur cette terre et ensuite il fait tout pour détruire, je paraphrase, il fait tout pour détruire l'humanité et il agit en ce qui concerne l'Église en accusant les membres de l'Église les uns contre les autres. C'est une révélation dangereuse, donc faites attention. Chaque fois que vous critiquez quelqu'un, vous critiquez l'autorité, vous jugez, vous êtes, je dirais, sous le contrôle de Satan. En tant que chrétien, nous devons avoir un seul Dieu. Nous ne pouvons pas avoir Dieu d'une part et ensuite notre propre nature, nos propres penchants charnels. Je vous ai cité, je citerai quelques-uns des versets que j'ai cités dans le premier sermon. Matthieu, chapitre 6, verset 24, le Christ a dit « Nul ne peut servir deux maîtres. » C'est normal. Ou il haïra l'un, ou il aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un, ou il méprisera l'autre. Et il répète « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Vous savez, lorsque vous regardez autour de vous, aujourd'hui, vous pouvez constater que nous vivons les derniers temps. Nous avons tout en ce bon monde pour constater que le monde qui existe aujourd'hui n'est pas le monde que le Christ a créé. Nous devons donc nous attacher au tronc, c'est-à-dire au Christ, faire ce que le Christ nous demande de faire. Et le Christ a tout fait afin que nous puissions connaître la voie divine, afin que nous puissions avancer dans cette voie, afin que nous puissions être protégés par lui et par sa force. Dans Jean 15, que je vous ai cité par le passé, à plusieurs reprises, le Christ dit « Je suis le vrai cep, mon père le vigneron ». Voyez-vous, là encore, il nous montre comment nous comporter. Et il nous dit que nous devons, nous, au verset 4, demeurer en lui. Il dit « Demeurez en moi, dit-il, et je demeurerai en vous ». Voyez-vous, voilà une instruction déjà importante. Et ensuite, plus loin, le Christ nous montre le chemin. Il nous montre le chemin en nous montrant quelques-uns des pièges de Satan. Il y en a plusieurs. Aujourd'hui, je vais vous montrer les trois pièges dont j'ai, comment c'est le commencement, je dirais, dont j'ai parlé. Je n'ai seulement pu parler la dernière fois que d'un seul piège. Le premier, comme vous savez, c'était la rébellion. Chaque fois que vous êtes tenté par la rébellion, vous êtes sous l'emprise de Satan. Dès le commencement, Satan a défié l'autorité divine. Il a même voulu convaincre, et il a réussi, que Dieu ne disait pas la vérité. Donc faites attention, chaque fois que vous jugez, chaque fois que vous tournez contre l'autorité, soyez sûr que vous êtes vraiment dans la bonne voie, ce qui ne serait pas le cas, car la rébellion n'est jamais conforme à la voie divine. Satan a réussi à séduire le premier couple. Satan a réussi à faire croire à Ève et plus tard à Adam que Dieu ne disait pas la vérité, que Dieu ne cherchait pas à sauver le premier couple, que la rébellion en ce bon monde vaut mieux que l'obéissance à la loi divine. Vous savez fort bien, je vous ai cité comment Moïse a été jugé par son frère et sa sœur, Aaron et Marie. C'est étrange. Alors que ces deux, dans la famille de Moïse, connaissaient la vérité, ils ont quand même été poussés par leurs sentiments charnels et ils ont, c'est surtout Marie qui a critiqué Moïse pour un péché que Moïse avait commis, vous savez, plusieurs années auparavant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Marie qui a été châtiée et Dieu a dit à Marie, écoute, à moins que Moïse, ton frère, prie pour toi, tu ne seras pas guéri. Ce sont une sorte de récapitulation que je fais. L'apôtre Paul, dans Romains, chapitre 8, versets 7 à 8, dit « L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. » Voilà, encore c'est très simple, très clair. Parce que, dit-il, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Donc, si vous êtes attaché à votre chair, à vos sentiments charnels, à votre esprit tout à fait rebelle, humainement parlant, donc vous ne pouvez pas être soumis à la loi de Dieu. Et l'apôtre Paul ajoute que cette affection de la chair ne peut même pas être soumise à la loi de Dieu. Pourquoi? Parce que nous devons nous détacher de tout ce qui est humain, en ce qui concerne tout ce qui est rébellion, de tout ce qui est nature charnelle, ensuite nous attacher à la loi de Dieu, à la soumission de Dieu. Voici maintenant, pour continuer, comment l'apôtre Paul décrit la soumission dans son épître aux Éphésiens. Là encore, je vous ai cité. Voyez-vous, vous avez l'autorité dans l'Église. Vous avez l'autorité dans la famille. Vous avez l'autorité en société. Vous avez l'autorité en gouvernement. Dans toutes ces choses, nous devons nous soumettre à l'autorité. Et ceci est possible. Par exemple, dans la famille, il faut que l'homme et la femme s'aiment. Il faut que la femme se soumette à son mari en Christ. Il faut que le mari aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Tout ça, c'est marqué dans Éphésiens, vous le savez. Et ensuite, il faut que les enfants se soumettent aussi à leurs parents. Autrement dit, la rébellion doit être éliminée de ce monde. Et la seule façon d'éliminer la rébellion, c'est que nous puissions nous soumettre à la loi divine. Ensuite, l'apôtre Paul nous donne des exemples, des recommandations. Par exemple, il dit aux enfants, Éphésiens 6, que j'ai déjà cité, je répète, il dit « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le cinquième commandement. » Ce sont des exemples que je vous donne, que la Bible nous donne, afin que nous puissions avancer dans cette direction qui est contraire à la rébellion. La rébellion nous tue, mes amis, tandis que l'obéissance à Dieu nous conduit vers la vie éternelle. Ensuite, dans Romains chapitre 13, l'apôtre Paul parle, et je vous ai cité la dernière fois, de notre soumission à la loi locale, aux autorités locales. Au verset 1, Romains 13, Paul nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Voyez-vous, c'est là encore une recommandation. C'est pourquoi, dit-il, celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Voilà, des recommandations et en même temps des explications. Un peu plus loin, dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 2, Paul répète, « J'exhorte, dit-il, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour qui ? Pour tous les hommes. » Et ensuite, il cite les rois, dit-il, et ceux qui sont élevés, « afin que, dit-il, nous puissions, nous autres, dans l'Église de Dieu, mener notre tâche à bien. » Ça, c'est important, parce qu'il faut que nous puissions avoir la faveur du gouvernement pour pouvoir terminer la tâche que Dieu nous a donnée. Notre tâche est simple, mais notre tâche dépend aussi des autorités autour de nous. Nous avons été appelés dans l'Église pour proclamer l'Évangile, pour proclamer ce que Dieu nous dit dans la Bible, pour annoncer la venue du royaume de Dieu sur cette terre. Ça, c'est notre mission. Mais pour pouvoir annoncer cette mission de par le monde, nous avons besoin de la protection des rois, des chefs d'État, parce que sans eux, si nous coupaient la route, nous ne pourrions pas aller trop loin. Lorsque vous constatez vraiment que nous sommes, nous, en tant qu'êtres humains, nous ne sommes rien, et il faut que Dieu nous protège, nous donne faveur aux yeux des autorités, vous comprenez facilement que nous devons en même temps nous soumettre à l'autorité. Chacun de nous doit se soumettre à l'autorité du pays où il habite, à moins que l'autorité soit contraire aux ordres de Dieu. Ce qui est rare, mais c'est possible. Il y a toujours Satan le diable. Satan est là pour nous inciter envers la rébellion, que ce soit en famille, que ce soit au gouvernement, que ce soit dans n'importe où, dans le travail. Voilà pourquoi Jacques a écrit, et je cite, nous sommes toujours encore, en ce qui concerne le premier piège de Satan, nous sommes toujours encore à ce piège-là. Voilà pourquoi Jacques a écrit dans son épître, chapitre 4, verset 7 à 8, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Certains d'entre nous ont peur de Satan. N'ayez pas peur de Satan. Certes, il est plus fort que nous, mais Satan ne peut jamais nuire à qui que ce soit, Satan ne peut jamais faire quoi que ce soit, à moins que nous nous soumettions à sa volonté. La réponse est simple. Soumettez-vous donc à Dieu et non pas à Satan. Parlons maintenant du deuxième piège. Voyez-vous, c'est là où je suis arrêté la dernière fois. Parce que je ne vous ai pas parlé vraiment de ce deuxième piège. J'ai parlé de la rébellion en détail. Et maintenant, continuons ce premier sermon et allons plus loin avec les deuxièmes et troisièmes pièges que Satan dresse contre nous. Il y a encore d'autres pièges, mais je vais mettre l'accent sur ces deux derniers. Jacques a dit, Jacques chapitre 4, versets 4 à 6, « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?» Là encore, c'est une vérité. Ce sont des vérités que nous devons réfléchir, que nous devons accepter, que nous devons vraiment considérer pour aller de l'avant et pour pouvoir lutter contre Satan. Croyez-vous, dit-il, verset 5, que l'Écriture parle en vain? Là encore, c'est une vérité absolue. Beaucoup de chrétiens ne lisent même pas les Écritures. Le fait est que la Bible a été écrite et nous a été donnée pour que nous puissions connaître la vérité, pour que nous puissions connaître la volonté de Dieu, pour que nous puissions avancer vers le but pour lequel nous avons été créés. Ensuite, Jacques continue. Il accorde, Dieu accorde, au contraire, dit-il, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, « Dieu résiste aux orgueilleux, ce dont je vous ai parlé, mais il fait grâce aux humbles. » Voilà, ce sont de petites phrases, de petits versets bibliques qui sont indispensables pour nous conduire vers la vie éternelle. Rappelez-vous, Dieu fait grâce aux humbles et il résiste à ceux qui sont orgueilleux. L'orgueil, mes frères et mes sœurs, c'est nous-mêmes. C'est notre nature. Ce sont nos tendances charnelles. L'orgueil, c'est se considérer supérieur aux autres. L'orgueil, c'est se rebeller. L'orgueil fait partie de la nature humaine et sous l'influence de Satan, l'orgueil nous tue. Voilà pourquoi je répète, chaque fois que vous avez tendance à critiquer une autorité, que vous faites preuve d'orgueil, faites attention car vous tombez en pleine entre les mains de Satan. Nous ne nous rendons pas compte, mais d'une façon générale, voyez-vous, nous avons été mis en ce monde pour une mission. Chaque homme, tôt ou tard, apprendra cette vérité. Nous autres, dans l'Église de Dieu, nous avons une mission. Nous avons une mission de proclamer l'Évangile pour dire que le Christ viendra. Or, dans cette proclamation, nous devons faire attention parce que Satan le diable sera toujours là pour nous décourager, pour nous faire croire que les autres ont raison et que nous avons tort. Ce n'est pas facile, vraiment, d'accepter une décision de la part d'un supérieur. C'est encore votre insoumission, c'est encore votre orgueil. Le fait est que l'influence de Satan dans ce que nous appelons orgueil est manifeste partout autour de vous. Regardez autour de vous. Examinez-vous vous-même. Vous verrez ce que c'est. Dans ce que nous faisons, lorsque nous avons une accusation contre quelqu'un, lorsque nous avons une critique contre quelqu'un, lorsque nous pensons connaître les choses mieux que n'importe qui, c'est l'orgueil qui nous dirige. L'orgueil vous tue, mes frères et mes sœurs. Mais l'honnêteté vous aide à marcher vers la vie éternelle. Autrement dit, l'orgueil et l'humilité sont des opposés. Soyez donc honnêtes en toutes choses. Soyez humbles en toutes choses, dans tout ce que vous faites. Considérez les autres meilleurs que vous, même si vous n'y pensez pas. Considérez que les autres ont plus de mérite que vous, sont meilleurs que vous. Le Christ nous a donné, lui, le Créateur suprême, des responsabilités à chacun de nous. Contentez-vous de faire votre part, acceptez votre part, accomplissez votre responsabilité et vous verrez comment les choses iront mieux. Dans tout ce que vous faites, abaissez-vous en ce qui concerne votre propre orgueil. Laissez les autres vous précéder. Soumettez-vous au Christ, soumettez-vous à ses enseignements. Car, je vous répète, Satan voudra, par ses pièges, dont je vous parle aujourd'hui, trois seulement, par ses pièges, de vous détourner de Dieu. Voyez-vous, l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 2, verset 1 à 4, si donc, dit-il, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, c'est-à-dire dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez-moi joie, dit-il au verset 2, Philippiens 2, rendez-moi joie parfaite, ayant un même sentiment, notez cela, un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée que le Christ avait sur la terre. Ne faites rien, dit-il, par esprit de parti pris ou par vaine gloire, mais dit-il que l'humilité, rappelez-vous ce mot, l'humilité, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et lorsque vous regardez autour de vous, il y a beaucoup de chances que vous vous considérez meilleur que les autres. Ne faites pas ça, car le Christ lui-même, voyez-vous, étant le Dieu suprême, a donné sa vie pour vous et pour moi, nous qui sommes des criminels. Chacun de vous, verset 4, Philippiens toujours 2, chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voilà comme ça vous pouvez dompter votre nature humaine. Voilà comme ça vous pouvez lutter contre ce que nous appelons ce piège qu'est l'orgueil. Ce sont là, voyez-vous, des instructions claires. Le Christ lui-même a fait la preuve pour nous. Il nous a montré comment y arriver, comment y parvenir. Ses disciples, qui étaient avec lui pendant 3 ans et demi, vous savez, ils n'ont pas vraiment compris ça. Après 3 ans et demi, lorsqu'ils étaient avec le Christ, ils demandaient au Christ, laissez-moi vous citer Matthieu chapitre 18, verset 1 à 4, en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Voyez-vous, c'est toujours ce désir de recevoir quelque chose, être grand. Le Christ ayant appelé un petit enfant, regardez voir la différence maintenant, il a dit, le place au milieu d'eux, il dit, je vous dis en vérité, dit-il, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Regardez voir cette différence. Le disciple veut être grand. Le Christ prend un petit enfant et dit, soyez comme lui, soyez humble, ne soyez pas orgueilleux. Obéissez, faites votre part et vous aurez votre part dans le royaume de Dieu. Il s'agit là d'un enseignement très facile. Facile, non, pas du tout. On penserait que c'est facile, mais lorsqu'on le met en épreuve, en application, c'est pas facile. Car, voyez-vous, ces choses-là, ces sentiments vont à l'encontre de nos tendances humaines, surtout en tant que piège que Satan nous présente. Ce genre d'attitude, je répète, va à l'encontre de notre nature humaine. Le critique est dangereux. Le Christ a dit, Matthieu 7, verset 1 à 2, « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. » Voyez-vous, c'est encore très simple. Ce sont des instructions faciles, faciles à entendre, difficiles à mettre en pratique, car ce sont des instructions qui vont à l'encontre, je répète, de notre nature humaine. Et le Christ nous dit au verset 2, toujours Matthieu 7, « On vous jugera du jugement dont vous jugez. » C'est simple, c'est clair. Et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Lorsque vous pensez à cela, lorsque vous voyez que vous êtes sous jugement en quelque sorte, chaque instant de votre vie, alors vous prenez la Bible plus au sérieux. Vous prenez ces avertissements au sérieux Et vous commencez à lutter contre ces orgueils, ces vanités, je ne sais quoi, ces pièges, et Dieu sera toujours avec vous pour vous aider. Au commencement de ce sermon, la dernière fois lorsque je vous ai parlé, je vous ai dit qu'il y a des gens qui quittaient l'Église. Une fois que vous avez trouvé la vérité, une fois que vous avez trouvé la véritable Église, comment pourriez-vous vraiment quitter l'Église? Ce n'est pas possible, à moins que vous commenciez à croire aux mensonges, à moins que vous commenciez à vous céder aux sentiments charnels, à moins que vous vous détourniez des commandements de Dieu pour suivre les pièges dont je vous parle. Les gens pensent d'une façon générale connaître les choses mieux que les autres. C'est encore l'orgueil, c'est encore la rébellion. Nous devons en toute chose apprécier ce que nous avons. Nous devons en toute chose apprendre à compter sur Dieu, à lui faire confiance. En toute chose, je répète, en toute chose, lui laisser nous guider. C'est ainsi que nous devons agir, voyez-vous. Le Christ, notre Seigneur, connaît les choses mieux que nous, certainement. Le Christ, notre Seigneur, veut que nous puissions arriver au but. Le Christ, notre Seigneur, ne va pas nous abandonner si nous-mêmes, nous faisons toujours notre part. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 9, verset 5 à 9, nous lisons, « De même, l'apôtre Pierre écrit, « Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tout ce qui est dans vos rapports mutuels, revêtez-vous donc d'humilité. » Ça se répète. L'humilité, c'est la base pour entrer dans le royaume de Dieu. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ensuite, Pierre ajoute, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. » Vous savez, c'est difficile parce que nous pensons que Dieu nous oublie. Mais ce n'est pas vrai. Dieu est toujours avec nous. Il a le temps de s'occuper de nous tous. Il peut tout faire. Sa puissance est infinie. Voilà pourquoi croyez à ce que l'apôtre Pierre dit. Soumettez-vous, dit-il, à sa puissance, afin qu'il puisse lui-même vous élever au temps convenable. Quand c'est le temps convenable? C'est au temps du jugement. Lorsque le Christ viendra, nous serons jugés. Et lorsque lui, il verra que nous avons suivi la voie qu'il a tracée devant nous, nous entrerons dans le royaume. Nous ne sommes pas sauvés par l'obéissance, mais l'obéissance nous permet de nous mettre sur le bon chemin. Et Pierre ajoute au verset 6, « Humiliez-vous donc, dit-il, à la puissante main de Dieu. » Voyez-vous, ce sont toujours les mêmes principes. Humilions-nous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. J'aime les expressions bibliques parce que la Bible ne dit pas qu'il y a des exceptions. Ce n'est pas écrit « Déchargez-vous de quelques-uns de vos soucis ». C'est marqué « De tous vos soucis ». Prenez le temps de réfléchir. Quels sont vos soucis? Écrivez-les sur un morceau de papier. Lisez-les. Ensuite, rappelez-vous ce verset. Humiliez-vous donc sur la puissante main et il vous élèvera. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. La vérité est très simple. Ou bien vous y croyez, ou bien vous vous y soumettez, ou bien alors vous vous en fichez et voilà que vous êtes en quelque sorte mi-chrétien. Un vrai chrétien croit à la Bible. Un vrai chrétien fait ce que Dieu dit. Un vrai chrétien sait que ce que la Bible dit est correct et que la Bible ne ment jamais. Et pour l'ajoute, Pierre ajoute plutôt, « Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Là encore, c'est incroyable comment la Bible précise les choses. Un lion rugissant est méchant. Il vous détruit, il vous déchire. Et voilà comment lui, il décrit, l'apôtre Pierre, comment il décrit les sentiments humains. Ce sont des paroles simples en quelque sorte, mais ce sont des paroles puissantes. Et Paul dit, résistez-lui, au diable, avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères de par le monde. Eh oui, souvent nous ne nous rendons pas compte. Nous pensons que nous sommes les seuls à souffrir, que nous sommes plus malheureux que les autres. Ce n'est pas vrai. Il y a toujours des gens qui sont plus malheureux que vous, plus pauvres que vous. Ils ont besoin davantage d'aide divine ou bien d'aide de leur prochain. L'un des meilleurs conseils que je puisse vous donner en ce qui concerne votre nature humaine, comment la vaincre, dans toute chose, mes frères et mes sœurs, quelle que soit votre occupation, quel que soit votre poste, considérez les autres meilleurs que vous. Eh oui, lorsque vous voyez quelqu'un tout à fait pauvre, vulgaire même, considérez-le comme étant supérieur à vous. Ne pas imiter sa voix, ce n'est pas ça que j'entends. Mais humiliez-vous parce que le Christ est mort pour cet individu. Le Christ est mort pour nous tous, pour le grand et pour le petit, pour le riche et pour le pauvre, pour le meilleur, je dirais, pour le pire. Voilà pourquoi, lorsque vous tâchez de voir les choses, tâchez en toute chose de servir, d'être utile. Et non pas de vous servir vous-même et d'avoir tout ce dont vous avez besoin avant le besoin des autres. Tâchez de servir au lieu d'être servi. Travaillez dur pour aider votre prochain. Le Christ a dit dans la Bible, dès le commencement de la Bible, que nous devons nous aimer les uns les autres. Tâchez d'obéir à ce commandement. Voyez-vous, nous avons couvert en quelque sorte un, deux, autrement dit, le premier piège de Satan, rébellion, le deuxième piège, l'orgueil. Et maintenant, revenons au troisième piège. Je répète, il y a plusieurs pièges, mais dans ces deux sermons que je fais, ou que j'ai fait en partie, je voudrais que vous puissiez comprendre quels sont ces trois pièges qui sont absolument dangereux et que nous devons à tout prix nous éloigner de ces pièges. Regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que le monde vous offre? Les tentations, les épreuves, en quelque sorte, cette lutte contre nos tendances humaines. Autrement dit, tout ce que vous voyez autour de vous est dirigé par la convoitise. Eh oui, vous achetez une voiture, on fait la publicité avec une femme dans la voiture. Vous achetez des choses, n'importe quoi, c'est toujours, on fait appel à vos sentiments de convoitise. Satan voudrait que vous puissiez être victime de cette convoitise. La convoitise, mes frères et mes sœurs, c'est l'une des pires des choses. La convoitise, c'est quelque chose auquel vous aspirez alors que vous n'y avez pas droit. La convoitise, dès le commencement, a été l'instrument que Satan, dont il s'est servi, pour pouvoir séduire le premier couple. Dieu veut que nous puissions comprendre que nous devons avant toute chose apprécier ce que nous avons. Apprécier même le peu que nous avons. Car le jour viendra, vous verrez, que nous n'aurons plus à manger, que nous n'aurons plus à boire, que nous n'aurons plus de famille, que nous n'aurons plus la liberté de vivre dans un monde sans être, je dirais, conduit par les astuces de Satan. La convoitise, je répète, c'est quelque chose à laquelle nous n'avons pas le droit. Mais nous voudrions l'avoir. Lorsque vous entendez autour de vous ce qui se passe, lorsque vous voyez la publicité, lorsque vous voyez ce qu'on vous offre, tout ça, d'une façon générale, est dirigé par la convoitise. La publicité, c'est la convoitise même mise en action. Tous les commandements de Dieu vous éloignent de ces choses. Tous les commandements de Dieu vous éloignent des sentiments qui sont charnels. Tous les commandements de Dieu vous aident à vous approcher de Dieu, vous aident à savoir comment lutter contre les pièges de Satan, dont la convoitise, dont la rébellion, dont en même temps l'orgueil. Je répète, lorsque vous étudiez la Bible, vous verrez que dès le commencement, Dieu a dit à l'homme comment se diriger vers le succès, comment s'approcher de lui, comment avoir la garantie absolue de réussir en ce bon monde. Mais voyez-vous, c'est très simple. D'abord Dieu et ensuite notre prochain. Nous devons nous soumettre à la volonté divine et nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Voilà la base du christianisme véritable. Deutéronome chapitre 5, verset 21. Voici l'un des commandements de Dieu. Dieu a dit, Deutéronome 5, 21, « Tu ne convoiteras point. » Ensuite, il précise, « La femme de ton prochain. » »« Tu ne désireras point la maison de ton prochain. » Ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, autrement dit rien, ni aucune chose qui lui appartienne à ton prochain. Voilà la base. Je mets l'accent parce que nous ne nous rendons pas compte, mais souvent nous sommes guidés par des sentiments de convoitise. Souvent nous nous laissons nous attrister par ce que nous n'avons pas, plutôt que nous réjouir par ce que nous avons. Comptez vos bénédictions. Comptez la joie que vous avez à savoir que devant vous, il y a la promesse divine du royaume de Dieu. Ça, c'est la vérité. Le reste, c'est le mensonge de Satan. Les 10 commandements, chacun d'eux vous met sur le bon chemin. Chacun d'eux vous fait une promesse. Et chacun d'eux, je répète, est vrai. Dieu ne ment pas, tandis que Satan est le grand menteur. Notre nature charnelle, sous l'influence de Satan, a tendance à croire au mensonge, comme c'est arrivé dès le commencement au premier couple. Voyez-vous, Satan a pu séduire Adam et Ève. Il a pu leur faire croire que Dieu leur mentait, alors que Dieu leur disait la vérité. Pourquoi si ? Pourquoi cette tendance ? Parce que la nature humaine, je répète, a tendance à se considérer meilleure que les autres et à voir des choses pour elle-même. Tenez un coup d'œil. Ensuite, prenez la Bible, lisez-la à genoux s'il le faut et demandez à Dieu de vous ouvrir l'intelligence. Dans les Proverbes, le livre des Proverbes est un livre magnifique où Dieu se révèle par des pensées très profondes, très simple et très profond à la fois. Nous lisons Proverbes 30, versets 7 à 9. Salomon a écrit sous l'inspiration divine et dit, je te demande deux choses. Voyez-vous, si vous deviez vous demander à Dieu deux choses, quelles seraient-elles? Qu'est-ce que vous demanderiez à Dieu? Salomon avait tout ce qu'il voulait en quelque sorte. Il était riche, il était là. Il avait la sagesse, mais il dit à Dieu, je te demande deux choses. Et quelles sont ces deux choses? Proverbe 30, verset 7. Ne me les refuse pas. Éloigne de moi, dit-il, la fausseté. Prenez le temps de réfléchir. Êtes-vous vrai? Êtes-vous réel? Êtes-vous pur? Est-ce que vraiment vous avez des sentiments qui sont purs devant Dieu? Est-ce que vous aimez votre prochain comme vous-même et vous y êtes absolument convaincu? Il dit, éloigne-moi la fausseté. la parole mensongère. Combien de fois dans une journée, je vous pose la question, et je me pose la question à moi-même, nous disons des choses qui ne sont pas vraies. Nous pensons que ce n'est pas sérieux, mais c'est sérieux. Dieu ne veut pas que nous mentions. Dieu n'aime pas le mensonge. Il déteste le mensonge. Dieu ne ment jamais. Donc, lorsque vous dites à Dieu, ne permets pas que je mente, et que éloigne de moi toute fausseté, tout ce qui est mensonge. Ensuite, il ajoute, regardez voir comment il ajoute le reste, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Parce qu'entre ces deux-là, pauvreté et richesse, vous avez la tentation de l'orgueil, de vanité, de rébellion, ingratitude et tout ce que vous voulez. Salomon était sage. Il savait comment demander et aussi il savait comment changer sa nature afin de pouvoir faire la volonté de Dieu. Alors, il dit, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. C'est magnifique. C'est rien et c'est pourtant c'est tout. Si nous étions tous assez convertis pour être reconnaissants du pain que nous avons chaque jour, nous n'aurions pas besoin, franchement, pendant d'autres choses, car Dieu nous accorde le pain dont nous avons besoin avec tout ce qui est indispensable en même temps. C'est ça, voyez-vous, c'est ça que nous ne comprenons pas en tant qu'humains. Salomon dit, le pain qui m'est nécessaire. Le Christ a dit la même chose et dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pas demain, pas l'année prochaine. Si vous comprenez l'importance de cette demande, vous n'aurez pas la convoitise. La convoitise est votre pire ennemi, je répète. Et pourquoi Salomon demande ceci? Il explique au verset 9. C'est beau comme Salomon explique. Prenez le temps, mes frères et mes sœurs, mettez-vous à genoux, demandez à Dieu de vous aider à comprendre ce que Salomon déclare ici. Il dit, de peur que... Donc, il veut ni la pauvreté ni la richesse, de peur que quoi? Dans l'abondance, je ne te renie. Et c'est vrai, il y en a qui sont devenus riches, et dans l'abondance, ils se sont détournés de Dieu, ils ont suivi la tentation que Satan mettait devant eux. Dans l'abondance, je ne te renie, et que je dise, qui est l'Éternel? Donc, c'est vous qui avez fait ça, c'est par votre force que vous avez réussi, ainsi de suite. Ou que, maintenant c'est l'opposé, ou que dans la pauvreté, je me dérobe. Je commence à transgresser les lois divines, que je ne vole, et que je ne m'attaque au nom de mon Dieu. Voilà les tentations. Et Satan connaît tout ça. Satan voudra que nous puissions, nous, toujours avoir des excuses pour rouspéter en bon français, pour demander davantage, pour ne pas être satisfait, pour convoiter, pour mentir. Vous pouvez maintenant comprendre la vérité en ce qui concerne comment se débarrasser du péché. Mettons en pratique en toutes choses les enseignements bibliques, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Ecclésiaste, encore de Salomon, chapitre 5, verset 9, nous lisons, « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. » Là encore, c'est simple, c'est cette convoitise. Celui qui aime les richesses n'en profite pas. Vous savez, dans ma vie, j'ai rencontré toutes sortes de gens, des riches et des pauvres, et des très riches en même temps. Mais dans chaque cas, je n'ai pas rencontré quelqu'un du monde qui soit satisfait de ce qu'il a. Le riche voudrait avoir davantage. Le riche voudrait pouvoir faire davantage, d'abord pour lui-même. C'est encore de la convoitise, c'est encore de l'orgueil. Donc, si vous voulez plaire à Dieu, vraiment, soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez. Que chaque jour, que chaque qu'une de vos prières commence par une gratitude, se termine par une gratitude. Que vos prières soient toujours motivées par ce que vous avez et dont vous êtes reconnaissant. Dieu aime un esprit humble. Dieu aime un esprit qui est reconnaissant. Dieu aime celui qui dit merci. Que vos prières soient chaque jour davantage des remerciements que des demandes. Certes, vous avez besoin de certaines choses, c'est normal, mais soyez avant toute chose reconnaissant pour ce que vous avez. Ça, c'est extrêmement important. Je vous ai cité le premier couple. Regardez, ils avaient tout. Et pourtant, lorsque Satan leur a menti en disant que Dieu vous a caché ce qui est meilleur pour vous, c'est-à-dire la vie éternelle, regardez voir comment la femme se laissait tromper. Qu'est-ce qui a fait à la femme de se rebeller contre Dieu? Genèse chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Quelque chose de physique. Autrement dit, elle préfère, elle met devant, avant toute chose, la satisfaction charnelle. Bon à manger, agréable à la vue, une fois encore, la convoitise, et qui était précieux pour ouvrir l'intelligence, l'orgueil. Voilà les trois choses ici. Vous voulez être intelligent, vous voulez être orgueilleux, vous convoitez. Donc elle prit de son fruit, de l'arbre là, elle en mangea et elle donna à son mari qui était auprès d'elle, et elle en mangea. Pourquoi? Alors que Dieu avait dit, tu ne mangeras pas de cet arbre. Mais ils se sont laissés conduire par les convoitises humaines. Autrement dit, considérez bon à manger, physique, agréable à la vue, physique, précieux pour ouvrir l'intelligence, physique. Comprenons maintenant ce que c'est, comment on peut vraiment tomber dans les pièges de Satan. À cause de la convoitise, beaucoup de familles aujourd'hui, en ce bas monde, ont été brisées. À cause de la convoitise, des mensonges, beaucoup de crimes sont commis. Certains individus entrent même dans l'Église de Dieu par des sentiments de convoitise. Ils veulent gagner quelque chose. Ils veulent avoir quelque chose. Ce n'est pas ainsi que vous trouverez la pure vérité. Si vous voulez entrer dans l'Église de Dieu, cherchez à plaire à Dieu. Cherchez la vérité. Comment servir, comment aimer, comment être agréable à Dieu. Ne venez pas ceux qui ne sont pas dans l'Église de Dieu et qui m'entendent prêcher maintenant, n'entrez pas dans l'Église où nous les... Ne tâchez pas d'entrer dans l'Église par des sentiments de convoitise ou d'orgueil. Venez pour apprendre. Venez pour être enseigné. Venez pour pouvoir savoir comment être meilleur chrétien. Rappelez-vous l'exemple de Simon le magicien dans Actes chapitre 8. C'est intéressant car Simon le magicien était un homme assez important à sa façon. Et il faisait des miracles à sa façon. Et lorsqu'il a vu les apôtres faire des miracles, il les a enviés. Tout d'un coup, il voulait être comme eux. Il voulait être, entre guillemets, chrétien pour pouvoir avoir le Saint-Esprit que les apôtres, avec lequel les apôtres travaillaient. Ce n'est pas ainsi que vous pouvez arriver à comprendre la vérité. Dans Actes chapitre 8, versets 18 à 19, nous disons, lorsque Simon, donc Simon le magicien, vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Voilà l'idiotie. Voilà la stupidité. Comment est-ce que vous pouvez offrir de l'argent pour avoir le Saint-Esprit? Il n'a rien compris. Il agissait sous les tentations de Satan. C'était l'hypocrisie, c'était en même temps la jalousie, c'était en même temps la vanité, la convoitise, tout ce que vous voulez. Il a dit aux apôtres, verset 19, acte, chapitre 8, 19, il dit, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que je puisse imposer les mains et que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Il n'a rien compris. Mes frères et mes sœurs, si vous cherchez la vérité, cherchez-la de façon à être agréable à Dieu, de façon à reconnaître que vous êtes petit, que vous n'avez pas de force, que tout ce que vous pouvez faire en ce bon monde, c'est grâce à Dieu, grâce à l'Esprit qui vous donne, grâce à la force qu'il vous donne. Pourquoi est-ce que Simon le magicien voulait avoir l'Esprit de Dieu ? Pour imposer les mains, pour quelle raison ? Pour être plus important, pour être plus grand, pour être, pour ainsi dire, pour pouvoir davantage se faire une gloire pour lui-même. Vous connaissez le reste de l'histoire. Simon le magicien a perdu sa vie. Il n'a jamais reçu l'Esprit de Dieu, parce que ce qu'il demandait, c'était par convoitise. Il n'a pas compris vraiment que la seule façon de recevoir le Saint-Esprit, c'est d'abandonner tout. Tout ce qui est humainement parlant, oubliez vous-même, Dieu prendra soin de vous, tournez-vous vers Dieu et n'ayez pas d'autre Dieu devant sa face. Il y a des gens que j'ai rencontrés dans mon ministère, des gens comme il faut, ils voulaient se faire baptiser aussi, mais leur motif n'était pas pur, parfois. Ils voulaient, par exemple, être baptisés parce qu'ils voulaient épouser quelqu'un qui était dans l'Église. Ils voulaient être baptisés parce que il voulait avoir une position dans l'Église, je sais quoi. Non, comme le Christ a dit, vous ne pouvez avoir deux maîtres. Ensuite, dans Matthieu chapitre 10, regardez voir le prix que le Christ impose. C'est un prix indispensable, mais ce n'est pas un sacrifice. Vous ne pouvez jamais donner assez au Christ, jamais. Vous pensez que vous donnez deux, assez. Vous pouvez jeûner trois fois par mois si vous le voulez. Ce n'est pas donné. Il faut donner à Dieu, au Christ, de vous-même, de tout ce que vous avez. Rien dans la vie ne doit venir entre vous et le Christ. Notez ce qu'il dit dans Matthieu 10, versets 35 à 37. Matthieu 10, 35 à 37. Le Christ a dit, « Je suis venu mettre la division entre l'homme et la femme, ou bien son père. » Voilà. Automatiquement, vous pouvez voir, parce que nous faisons des choix. Il n'y a pas de choix lorsqu'il concerne le Christ et nous. Division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Parce que nous faisons des choix. Il n'y a pas de choix, mes frères et mes sœurs. Si vous êtes au Christ, vous appartenez au Christ, vous êtes esclave du Christ. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Voilà, si vous comprenez la vérité, c'est un commandement magnifique, parce que ça vous garantit le bonheur, ça vous garantit la vie éternelle. Ensuite, le Christ précise, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, voilà la différence, n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Il y a tellement d'exemples dans la vie, dans la Bible, que je peux vous citer. Prenez par exemple l'exemple, je ne pense pas que j'aurai le temps de citer, mais Abraham et de Lot, son cousin. À plusieurs reprises, je vous ai cité ceci. Je vous ai cité comment Abraham, lui-même, s'est sacrifié. S'il fallait faire un choix, il a laissé à Lot avoir le premier choix. Abraham savait que Dieu a tout, Dieu peut tout, et que si lui, il fait sa part, s'il donne la priorité, pour ainsi dire, à son prochain, s'il donne, lui, ce qui est important d'abord aux autres, il aura sa récompense. Laissez-moi vous citer au moins une partie de cette histoire. Donc, c'est un choix entre les employés, les ouvriers d'Abraham et de Lot. Et ce bagarre répond ainsi dire. Alors il fallait que Abraham fasse une proposition. C'est encore Abraham, qui était le plus grand entre les deux, qui a fait l'offre. Entendez, Genèse chapitre 13, verset 8. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point de dispute entre nous, entre toi et moi, dit-il, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Regardez cette phrase, nous sommes frères. Nous sommes frères en Christ. Et le Christ a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ensuite, Abraham, qui était le plus grand à l'époque, il propose alors, il dit, tout le pays n'est-il pas devant nous? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Un choix fantastique. Alors qu'en réalité, il aurait dû lui-même s'accorder ce choix. Mais il n'a pas fait ça. Il a laissé à Lot le choix. Qu'est-ce qui se passe? C'est exactement l'histoire d'Adam et d'Ève. Autrement dit, Lot regarde autour de lui, il cherche ce qui plaît à ses yeux, ce qui plaît à sa nature humaine. Verset 11, Lot leva les yeux, vit toute la plaine du Jourdain. C'était entièrement arrosé, autrement dit, c'était une plaine fantastique. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin d'Éden, jardin de l'Éternel. Alors, il voit tout ce qui est magnifique en tant que terrain à choisir. Qu'est-ce qu'il fait, verset 11, Lot choisit pour lui toute la plaine de Jourdain et pas tout ce qui était bien. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi que les deux se séparèrent. Une fois encore, vous connaissez l'histoire. Sodome et Gomorre ont été détruits. Et Lot a perdu tout. Tandis qu'Abraham, qui avait choisi le meilleur, le moins meilleur, a tout gagné. C'est cette attitude dont vous avez besoin, vous, dont j'ai besoin, moi, dont nous avons tous besoin pour être chrétiens, pour pouvoir lutter contre les pièges de Satan. Aussi longtemps que Satan a pouvoir sur vous, vous n'êtes pas sûr de votre salut. La seule façon, comme Jacques a dit, soumettez-vous à Dieu et Satan s'éloignera de vous. Continuons. Je pense que j'aurai le temps de finir. Sincèrement, oui. Dans Exode, chapitre 20, versets 2 à 3, Dieu a dit, voyez encore une fois la force de cette puissance divine. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Mais c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu? Dieu s'adressait à un peuple qui est esclave. Dieu s'adressait à un peuple qui demandait l'aide divine pour sortir de l'esclavage. Donc Dieu dit, moi qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ensuite, il explique ce que c'était, ce que c'est encore, en vérité, l'Égypte. Il dit, de la maison de servitude. Voilà, Dieu a servi, donc, les commandements divins pour convaincre la première nation qui s'était choisie que la seule façon de sortir de la servitude, c'est de connaître que Dieu avant tout. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Il dit, verset 3, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Mes frères et mes sœurs, certains d'entre vous, vous êtes dans l'Église depuis longtemps. D'autres, récemment. Quel que soit le cas, posez-vous la question, est-ce que j'ai d'autres dieux devant la face de l'Éternel? Un ami, un membre de l'Église, un membre de votre famille, ou bien des choses comme la fortune, des choses comme un travail. Avez-vous d'autres dieux devant l'Éternel Dieu? Si c'est le cas, vous transgressez le premier commandement. Et pourtant, c'est le commandement la plus importante, le plus important dans ce sens que si vous avez d'autres dieux, vous êtes divisé. Vous êtes automatiquement sous l'emprise de Satan. Dieu a dit, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Quand vous constatez aujourd'hui, les gens, le monde, d'une façon générale, ont d'autres dieux devant la face de l'Éternel. Chacun a son orgueil, chacun a sa convoitise, chacun a sa façon de raisonner, chacun se rebelle à sa façon, parce que, d'une façon générale, on pense que Dieu n'est pas juste. Alors que Dieu est justice, Dieu est amour, Dieu est celui qui nous a créés et qui veut que nous puissions entrer dans son royaume. Je répète, l'orgueil, la vanité, la convoitise, ce sont des ennemis. Et parfois, nous prenons ces ennemis, nous les considérons en tant qu'amis. Vous savez, lorsque vous regardez autour de vous, regardez voir où nous en sommes aujourd'hui, nous qui sommes dans l'Église de Dieu depuis assez longtemps. Nous avions promis que Dieu nous donnerait tout ce que nous voulons, et c'est le cas, si nous faisons sa volonté. Et pourtant, entre-temps, regardez voir ce qui se passe. Ceux qui sont appelés aujourd'hui sont parfois persécutés. Ceux qui sont appelés ont des difficultés avec le monde. Nous aurons ces difficultés parce que la Bible le dit. Lorsque je vois ce qui se passe autour de nous, je me réjouis, non pas parce que c'est une bonne nouvelle, non, mais il faut que ces choses, comme le Christ a dit, arrivent avant que le Christ revienne. Donc, chaque fois que les événements se gâtent, en quelque sorte, je vois que nous avons eu cette assurance même que ce que Dieu a dit est vrai. Bien que les nouvelles soient mauvaises aujourd'hui, elles le sont, elles deviendront pires, nous avons la garantie que plus ces nouvelles, je dirais, deviennent plus mauvaises, plus le retour du Christ s'approche. Et alors, le monde connaîtra une vie différente. Les gens connaîtront la vérité. Les gens sauront ce que c'est que les promesses divines. Autrement dit, bien que ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, ce n'est pas agréable, non. Il y a des maladies, il y a des souffrances, il y a des guerres. Nous voyons tout ça. Il n'y a rien à se réjouir, mais la seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tout cela confirme que le Christ nous a dit que les jours seront mauvais et que si nous nous soumettons à lui, quelles que soient les circonstances, il sera avec nous. Rappelez-vous, le Christ a promis d'être avec nous et il le sera. Hébreux, chapitre 13. Laissez-moi terminer avec cette promesse divine. C'est fantastique, c'est formidable. Hébreux 13, versets 5 à 6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Nous avons parlé de ça. Contentez-vous de ce que vous avez. Voilà. C'est ce que je vous ai dit au cours de ce sermon. Contentez-vous, dites merci à Dieu. Car Dieu lui-même a dit, regardez-moi cette promesse, voilà une promesse à laquelle vous pouvez tenir, sur laquelle vous pouvez compter en tout temps. Mais soyez convaincus que ce que le Christ dit, il entend. Adam et Ève n'ont pas cru au Christ. La plupart des gens qui se sont détournés de Dieu, de l'Église de Dieu, n'ont pas cru au Christ. Ici, nous lisons clairement dans Hébreux chapitre 13, versets 5 à 6, « Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. » Mes frères et mesdames, Dieu ne ment pas. C'est ça dans la Bible. Dieu ne ment jamais. Quelle que soit votre situation, quel que soit votre état, rappelez-vous, Dieu a dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. C'est vrai, c'est la vérité. Alors, mettez-vous à genoux. Dites à Dieu, écoute Dieu, est-ce vrai? Et vous savez que c'est vrai. Que tu ne vas jamais me délaisser. Que tu ne vas jamais m'abandonner. Dans ce cas-là, lorsque vous aurez terminé vos prières, votre cœur sera plein de joie. Votre cœur sera tranquille, car le Dieu suprême, qui ne ment jamais, vous dit « Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point ». Réfléchissez à tout cela. Croyez en Dieu. Faites ce qui vous enseigne, ce qui vous recommande dans la Bible. C'est la meilleure façon, c'est la meilleure route à suivre pour entrer un jour dans le royaume de Dieu lorsque le Christ reviendra sur cette terre.